Amis du langage, bienvenue. Cette 33e contre-soirée est de fait l'antépénultième émission de la saison. Bonsoir. Alors, antépénultième, c'est un adjectif qui désigne l'élément qui précède l'avant-dernier en français. Et quelle joie pour moi de pouvoir introduire cette avant-avant-dernière émission avec un terme qu'on entend rarement et que je viens probablement de vous apprendre. Oui, ce soir, il est temps de parler des mots et de la langue, déjà parce qu'on fait une émission de radio et que justement, le langage est au centre de toute communication. Ensuite, parce que, avec Contre-soirée, on s'efforce de vous dresser un portrait le plus exhaustif possible de cette culture jeune, qui n'existe probablement pas, mais passons. Peu importe, hein, les séries, la musique en streaming, les smartphones, c'est bien beau, mais si on ne s'arrête pas sur le sens des mots, leur usage, leur portée, leur évolution, on passe à côté d'un pan de notre culture de 2020. On dit que la société est devenue avec Internet un monde d'images, de vidéos, de visuels, d'audiovisuels. Eh bien, je n'en suis pas convaincu. Vous savez que derrière la forme, et puis n'importe quel publicitaire vous le dira, le plus important c'est le message. Quel slogan, quel punchline, qu'est-ce qu'on dit ? Heureusement, le langage ne sera jamais breveté par des communicants ou des politiques, Dieu merci. La langue appartient à tout le monde, et donc à personne. En tout cas, pas aux immortels. Pas plus aux immortels de l'Académie française qu'aux ados prépubères du collège. En matière de langage, l'usage prévaut et les sages prennent note. Même si au fond, on a beau être jeune et apporter du nouveau dans les mots, jour après jour, la langue reste, cause toujours, tu m'intéresses.
Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. En direct, tout de suite sur Radio Présence. Et en podcast, où vous voulez, quand vous voulez. Contre-soirée, un programme présenté par Grégoire Dubois.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle contre-soirée, votre rendez-vous culturel du jeudi soir. Beaucoup de choses à aborder ce soir autour du thème du langage. Tout à l'heure, on aura une spécialiste de la langue au téléphone et spécifiquement des évolutions récentes du langage chez les jeunes. Ce sera Ophélie Ferreira. On va aller rapidement sur les présentations. Tout le monde nous connaît. Autour de la table, il y a... vous avez changé de place. Donc, il y a Josué qui est en studio. Bonsoir, Josué.
Bonsoir.
Bienvenue, qui est arrivé 5 minutes avant l'émission. On balance.
Non, j'étais parfaitement à l'heure. Il faut arrêter.
C'est vrai que tu étais à l'heure.
Son goûter.
Tu veux dire, il n'y a pas de souci.
Voilà.
À côté de toi, il y a Myriam.
Yes, salut.
Salut. Et en régie, on a Mehdi. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Grégoire.
Bienvenue à toi. Est-ce que ça va ? Est-ce que ta santé va ?
Oui, ça va. Après ça une va journée de boulot, ça va.
Ça va la petite chemisette, bleue ?
Merci.
C'est ouais. Ça ta tenue de boulot ? Tu es tous les jours comme ça ou tu changes ? C'est quoi ton humeur ?
Non, tous les jours en chemise. Tous les jours comme ça ? Avec le pantalon qui va avec et voilà.
Trop bien, la classe.
Avec l'expérience, peut-être que je mettrais d'autres attirail, mais là, ah ouais, non, pour l'instant, c'est des chemises.
Un short, un Marcel, peut-être, un jour.
Peut-être, un jour.
Claquet de chaussettes, on connaît.
Je changerai de métier, sûrement, mais oui.
C'est ça, effectivement. À côté de toi, on a Coraline, comme d'habitude.
Bonsoir.
Bonsoir. Toi, t'es vraiment la fidèle de l'émission, tu es quasiment tout le temps là.
Et oui, parce que oui, c'est
surtout à la même place.
Et oui, à la même place. Je ne bouge pas, je ne prends pas ma table, je ne me déplace pas.
Il y a des gens qui ont des privilèges, quoi.
Bravo.
Non, mais c'est beau.
C'est toi qui as voulu partir juste avant l'émission.
C'est vrai.
Voilà. Donc merci à toi de réaliser cette émission. Sans toi, nous n'aurions pas de son. Ce serait vraiment dommage pour une émission, elle serait moins bien. En tout cas, aujourd'hui, comme d'habitude, ça dure jusqu'à 20h. On est avec vous jusqu'à 20h. On est en direct sur Twitch aussi, le fameux site de vidéos en streaming, de live vidéo sur Internet. Vous tapez twitch.tv/ctrsoirée. Et puis, un numéro de téléphone pour nous écrire pendant l'émission. On se fait un plaisir de lire vos petits messages et d'y répondre en direct. 07 68 37 17 18. Et sans tarder, on y va pour nos boutons replay.
Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Le bouton replay.
Alors, beaucoup d'infos aujourd'hui. Moi, j'ai même plusieurs petits boutons replay. Déjà, petite info rapidement, est-ce que vous avez vu la nouvelle mise à jour de Twitter, la nouvelle fonctionnalité de Twitter ? Vous n'êtes peut-être pas tous utilisateurs, mais hier soir, Twitter a lancer la possibilité sur les smartphones iOS de tweeter avec la voix, d'enregistrer des messages vocaux, comme on fait dans nos messageries instantanées WhatsApp Messenger, mais on peut tweeter avec sa voix, et ça n'écrit pas les mots à l'écrit, ça laisse le son comme ça, donc les gens, sur leur fil d'actualité Twitter, peuvent cliquer comme s'ils étaient dans une messagerie instantanée. Donc je sais pas si vous êtes ce réutilisateur, Josué, est-ce que tu utiliserais cette fonctionnalité ? Sachant que vraiment, on lit le message audio comme ça. Donc, les gens qui s'insultent par tweet interposé,
non, on pourra les entendre. J'utilise Twitter pour, surtout pour regarder les tweets. Et ouais. En l'occurrence, je pense pas que si j'avais la possibilité de faire des vocaux comme ça, de parler littéralement et de faire ça, je le ferai pas parce que je m'étalerais. Alors que limite de contenu me permet juste.
Oui, mais c'est limité à 140 secondes.
Même il y aurait des trucs comme ça dans mon truc. Donc, ce serait pas clair. Il faudrait que je me prépare un texte avant, et préparer un texte avant, ça signifie faire un tweet.
C'est dommage, oui, tu pourrais.
Ça n'aurait pas de sens. Voilà.
Petite évolution, on verra ce que ça donne chez Twitter, mais en tout cas, les gens étaient relativement énervés hier soir sur cette fonctionnalité. Ils voyaient pas l'intérêt, et je comprends un peu. J'ai peur de voir des tweets sponsorisés, des pubs lus comme ça, ou alors des gens qui s'insultent par tweet interposé. J'ai pas envie de voir ça.
Ouais, ça permet de faire des vocaux insultes, quoi.
Oui, voilà, c'est pas bon. Bof. On verra. Petite évolution sur les réseaux sociaux. On a vu passer d'autres choses sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo que je vais vous faire donc écouter, puisque nous sommes à la radio, si vous êtes perspicace. C'est une vidéo qui s'intitule « Salut à toi, jeune entrepreneur ». Et on parle pas souvent de vidéos virales, parce qu'en fait, il y en a tellement que ça sert à rien d'en parler tout le temps. On brasse un peu de l'air, mais « Salut à toi, jeune entrepreneur », ça vaut le coup, écoutez ça.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto.
Donc voilà, salut à toi jeune entrepreneur qui a fait rire plus d'un dans l'équipe. Donc toi Josué, tu connais cette vidéo?
Oui, je la connaissais.
Pour décrire un petit peu aux auditeurs, c'est un gars qui se fait filmer par son pote, probablement un jeune homme en costume cravate.
En costume moulant, vraiment très moulant. Costume trop petit, vraiment.
Ça sent
c'est
costume
drôle.
De location.
Ça sent, c'est très très drôle.
Voilà, il est près d'une voiture de luxe, peut-être de location aussi.
Voilà.
Et son douteux et un langage moyen aussi.
Ce qui est très drôle, c'est qu'il est avec un verre de champagne, une coupe, et à la fin, il rentre dans la voiture, il lance la coupe de champagne, il y a des cyclistes qui l'engueulent à ce moment-là, et c'est à mourir
sympa
de rire, parce que ça montre le côté un peu vraiment amateur de la vidéo, et elle est à mourir de rire cette vidéo tellement. Parce qu'il y en a beaucoup des contenus sponsorisés comme ça, de gens qui disent « Salut jeune entrepreneur, tu veux te faire de l'argent rapidement comme ça sur Instagram, il y en a beaucoup. » Voilà. Et ils viennent, t'as plus de 100 abonnés, t'as plus de 18 ans, t'es inscrit dans cette banque, machin, que des trucs comme ça.
Même sur les pubs YouTube, d'ailleurs on en a plusieurs maintenant avant les vidéos maintenant.
Ouais.
Et donc là, il y a beaucoup ce genre de problème.
Ouais.
Non, en fait, ça m'intéresse pas vraiment. Il te dit, t'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas, allez, salut.
Mais non, c'est
heureusement qu'on peut l'excuser un peu quand même.
C'est le problème de monétiser, quoi. Enfin, bon.
Bah, c'est leur modèle économique et du coup, ils vivent de ça. Et... Mmh. Ou alors, faut payer YouTube. Moi, maintenant, je paye YouTube. Bon, voilà.
Ah, tu fais partie de ces gens-là?
Je fais partie de ces gens-là qui ont,
non, mais c'est bon, pas besoin de développer.
Vendu leur âme à la
Silicon. Salut, jeune entrepreneur.
Donc voilà, salut, jeune entrepreneur. Allez voir ces vidéos, c'est croustillant. On vous recommande, les gens en général vous envoient des trucs sur WhatsApp, vous saoulent avec des mails, des chaînes de mails peut-être, des vidéos virales, mais celles-ci sont particulièrement croustillantes. Il y en a quatre maintenant, depuis avant-hier, un truc comme ça, qui s'appelle « Salut à toi, jeune entrepreneur », donc un titre parfait, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et la numéro 4, et c'est un gars qui a remarqué que la première vidéo a bien marché, et du coup la quatrième, on sent qu'elle est clairement mise en scène, mais bon, passons. En tout cas, c'est très drôle. Autre registre, avec toi, Myriam.
Ouais, moi c'est plutôt traditionnel.
Ouais, c'est une pratique culturelle.
Une pratique culturelle, voilà, c'est la bénédiction des troupeaux avant de partir aux estives. Donc c'est quand déjà les troupeaux, en fait, on a vu aussi cette partie-là, c'est que on est arrivé, les vaches, elles étaient déjà prêtes, donc ils les ont bénies, hop, il y a eu une messe. Ensuite, on est parti voir les moutons et les moutons n'étaient pas encore prêts parce qu'il fallait tout ce qui passe dans un bain pour détruire la vermine et qu'ils puissent les emmener ensuite dans les pâturages. Et il y en avait quand même 1700 de bêtes à faire. Et donc ils ont un petit peu galéré parce qu'évidemment les tarasconnaises, donc ça c'est la brebis, enfin les brebis et les moutons du coin,
ouais,
qui ont des cornes et qui est une race vraiment pyrénéenne et qui avait la trouille, hein, évidemment, de passer dans ce petit couloir et ensuite de plonger dans l'eau, mais du coup c'était musclé entre les éleveurs et leurs bêtes, mais j'aime bien voir ce travail un peu très concret dans de la terre et tout. Et puis cette tradition,
Il y a vraiment de la tradition de là-dedans. Il y a même parfois un petit, il y a de la croyance et il y a aussi parfois un peu de la, j'ai plus le mot,
de
la superstition. On va trouver, ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est voilà, c'est-à-dire que de temps en temps, il y en a qui vont dire ah, vous m'avez porté chance avec mon troupeau ou oui, l'inverse.
Ou l'inverse, si ça marche.
Alors
pas.
Que bon, c'était pas spécialement, enfin, c'est pas de la. C'est pas de la magie.
Mais ça fait partie de la tradition.
Voilà, ça fait partie de la tradition et c'était vraiment sympa de voir ça. Et comme on était tout un groupe de jeunes à y aller, donc on a rencontré les éleveurs et les anciens aussi, et discuté avec eux, savoir depuis quand ça existe, etc. C'était vraiment une belle expérience. C'était aux Granges d'Astaud.
D'accord, pour ceux qui connaissent. C'est,
voilà.
c'est
dans la vallée de Luchon. Ah, c'est encore
dans les
Hautes-Pyrénées.
C'est en Haute-Garonne.
En Haute-Garonne encore. D'accord. Donc la vallée de, vallée de Luchon et. Donc à eau, et donc ensuite c'est le lac d'eau qui est juste au-dessus, qu'on a été ensuite visiter.
Il faisait beau.
Il y en a certains qui ont plongé. Non, il faisait pas beau. On avait vraiment un plafond bas, mais alors, une fois au lac,
c'est quoi cette
on a eu quand même des belles éclaircies. Donc et c'était vraiment sympa.
Et alors, puis, ça fait du bien de revoir. L'eau froide du lac d'eau.
L'eau bien glacée, ouais.
Bien glacée.
Moi,
hein,
j'ai pas été.
Ça revigore.
Oui, oui, il y en a qui ont été. Et finalement, au bout d'un moment, apparemment, elle est bonne.
Coraline ?
Si je peux me permettre, un petit message écolo. Quand vous allez à la montagne, repartez avec vos déchets parce que justement, les lacs sont bourrés de poubelles, de détritus et ça fait mal au cœur.
Ouais, c'est vrai qu'on dit lac d'eau, lac d'eau. Moi, j'y suis allé, je connais, j'ai l'impression que c'est un des lacs relativement assez connus dans la région, mais malheureusement, quoi. Les déchets,
C'est ça, voilà. Et puis en plus, c'est pas bon de laisser, même si vous avez des petites choses, parce que les bêtes du coin redescendent, éventuellement les ours et tout, ça peut les attirer vers le bas alors qu'ils sont destinés à rester en haut, quoi, plutôt. Et ça évite la rencontre avec l'homme qui peut faire peur aux gens et qui entraîne en fait la haine des humains envers les bêtes. Et
on a vu dans l'actu,
on n'en a pas besoin, quoi.
On a vu dans l'actu que. Parfois, il y a un ours qui est tué comme ça. Bon, j'espère que ça ne va pas trop se reproduire. Merci pour ce beau bouton replay qui change un peu d'habitude. Et on passe à Mehdi. Toi, tu t'es documenté, tu as vu un documentaire.
Ouais, exactement, sur YouTube. Footballistique, Le Jardin. Le Jardin, c'est un documentaire sur la formation du PSG. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Vous allez y voir quoi, en fait? Les U19. U19, ça veut dire under 19, ça veut dire en dessous de 19. Et dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire au centre d'entraînement, on va voir par rapport aux sessions d'entraînement avec les entraîneurs qui leur distillent de précieux conseils. On va les voir dans un environnement éducatif, parce que c'est souvent dans un dispositif de sport-études. On va les voir à la cafétéria, on va les voir sur leur temps de relaxation, sur leur temps de massage. Et c'est vraiment en fait la panoplie, l'antichambre en fait du monde professionnel qui attend ces jeunes hommes. Donc ils vont apprendre à devenir des professionnels, des citoyens à part entière, parce que n'oublions pas que pour la plupart ils vont gagner beaucoup plus que le revenu médian, et c'est très beau pour des jeunes footballeurs même amateurs de voir des facettes de cette vie un petit peu, ce microcosme footballistique, et de se dire que voilà, je peux me l'approprier parce que je suis jeune aussi comme eux, j'écoute les mêmes musiques qu'eux, je parle aussi comme eux, mais sauf que en fait, l'avenir de ces jeunes-là sera différent, entre guillemets, professionnellement parlant. C'est beau. Pourquoi c'est beau ? Parce qu'on voit aussi la maturité de ces jeunes hommes. Le cadre fait que, la situation de vie fait qu'ils sont obligés d'être beaucoup plus matures, loin de leur famille, avec des éducateurs, et souvent des objectifs financiers, des objectifs aussi sportifs.
Donc un beau documentaire, rappelle-nous le nom hein, pour les gens qui nous écoutent.
Le Jardin, c'est sur la chaîne Yard, et si vous voulez suivre aussi les U19, il y a la chaîne Made in Paris, enfin la chaîne du Paris Saint-Germain, et l'émission c'est Made in Paris qui a mis plusieurs épisodes en vue pour suivre en fait l'histoire de ces jeunes footballeurs en devenir.
Et bien on ira voir ça. Un deuxième documentaire reportage avec toi, Josué.
Ouais, c'est pas tant un reportage, c'est plus je conseille plus l'organisme en lui-même. Donc je sais pas, beaucoup d'entre vous connaissent l'INA puisque c'est un organisme assez assez vieux, on va dire. En tout cas pour un jeune comme moi.
Et pour cause, son activité principale, ce sont
De reporter des archives voilà, donc de classer, de publier, de mettre à disposition du public des archives Et moi, j'ai découvert les archives, en particulier vidéo sur Facebook, en l'occurrence, mais vous pouvez les trouver partout. Et ces archives vidéo, elles sont extrêmement intéressantes parce que ce sont des petites vidéos de 5 minutes prises avec un sujet en particulier, par exemple... que pensez-vous, ça peut être un truc politique comme l'immigration par exemple, ou un truc beaucoup plus simple comme un débat futile sur pain au chocolat ou chocolatine, mais c'est vraiment très très drôle. Et ces vidéos, elles sont tournées en 1960, dans les années 70, 80, et ça montre une évolution, et j'en parle aujourd'hui parce que l'émission sur le langage le permet de le faire, dans le sens où en fait, dans les vidéos de Lina, on s'aperçoit qu'il y a une évolution vraiment impressionnante du langage en français, je veux dire. Et on voit des nouveaux mots apparaître au fur et à mesure des vidéos, quand on avance en chronologie, on voit des nouveaux mots, des nouvelles phrases, des nouveaux types de pensées.
Ouais, voilà. D'expression.
C'est vraiment, voilà, exactement. Et c'est vraiment impressionnant parce que c'est facile à déceler, je veux dire. C'est pas compliqué à déceler. Bon, faut en regarder beaucoup, mais, mais c'est facile à déceler. Et moi, je me suis intéressé à ça par hasard, parce que j'étais tombé sur une vidéo de Lina. Et c'est vrai que c'était vraiment, vraiment intéressant et surtout drôle, parce que vraiment, ce sont des gens qui... Ils interrogent des gens qui habitent en centre-ville, puis après un bon campagnard des années 60, et c'est à mourir de rire.
Oui, puis des adultes, des enfants,
ouais, des ados. Adultes, des enfants, des ados, exactement, tous les types, toutes les tranches d'âge, tous les revenus, toute la société y passe, et bah, c'est génial.
C'est des archives vraiment sélectionnées par Lina ces dernières années, qui font vraiment un travail de com fantastique. Et puis, ces vidéos sont bien, bien virales, et c'est pas pour rien.
Et puis c'est tout à fait officiel, quoi. Faut vraiment pas, enfin, y a pas de contestation possible. Lina est vraiment très sérieuse sur ce domaine, quoi.
Donc les vidéos de Lina, c'est trouvable sur YouTube, c'est très très populaire sur YouTube, donc allez fouiller ça, il y a vraiment des pépites. Et nous sans tarder, une petite pause de 2 minutes, ou peut-être même 1 minute si on est des fous, voici Giorgio, et on se retrouve dans 2 minutes.
Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air, maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit, effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Prendre juste un sac et pas de bagages en soute. Aujourd'hui j'ai les idées claires, je me cache, je laisse pas l'âme dans le flou. Une fois la tour Eiffel derrière moi, j'avoue, j'ai commencé à douter de Paris, on se retrouvera sans doute. Personne n'a pris ma foi, alors je brise les codes à vive allure, je pisse droit. Mes voyages jamais soumis à vos dictatures. Mes nuages sont indolores depuis que je sais où je vais, puisque la vie vaut de l'or. Expliquez-moi le sang dans les CJD. J'ai l'impression que là où je respire, d'autres meurent étouffés. J'ignore où se trouve le cimetière de la jeunesse et miroir. Excuse-toi de me créer des chaînes, je suis pas rancunier. Hera, sa cigarette diffuse et on part en fumée. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. J'entre à l'aube du nid endiablé par l'ivraie. Je joins mes potes qui sortent de boîte, la gueule de bois. Et dans les premiers bus, tout le monde leur marque. On est différents, on parle fort, un bien méchant. Allez taffer plus jamais, j'ai de l'empathie pour les gens qui ont pas eu le courage ou le choix que de se lever toute leur vie pour pas grand chose. L'éducation, l'ouverture d'esprit rend nos parents pauvres. Il faut le comprendre et je crois que seul le temps nous le permet. On perd le nôtre sur internet, des trous dans la cervelle. Faire semblant d'avoir pas peur la diminue. On fait tous pareil puisqu'on doute toute l'année. Mon sourire ferait croire que je souffre à peine, alors que j'étais condamné à me planter les intestins. Hera, y'a sa joie de vivre et on court après le train. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie.
Et donc ça c'est Giorgio, le rappeur Giorgio avec son titre Hera, que je vous recommande vraiment, c'est des beaux textes, c'est de la belle musique. Et on passe tout de suite au vif du sujet de Contre-soirée.
Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération, le vif du sujet.
Un quart d'heure pour évoquer dans l'équipe les problématiques liées au langage dans nos générations. Tout à l'heure, on aura une interview que je vous recommande vraiment d'écouter, de Ophélie Ferreira, qui justement fait de la recherche sur ce sujet-là précis de l'évolution du langage chez les jeunes générations. On peut se demander déjà, qu'est-ce que c'est qu'être jeune ? Est-ce qu'il y a un parler jeune ? Est-ce qu'il y a du vocabulaire de jeune ? Voilà, ça dépend des définitions. Comme d'habitude, j'ai envie de commencer avec des questions un peu personnelles. C'est quoi votre rapport au langage ? petit ou petite chez vous, est-ce que vous parliez beaucoup, est-ce que vous aimiez les mots, les dictionnaires, est-ce que voilà, est-ce que vous aviez un attrait pour le langage avec votre famille, avec vos profs à l'école par exemple, est-ce que vous aimiez ça, la grammaire, la conjugaison, ou est-ce que ça vous laissait de marbre, est-ce qu'aujourd'hui vous faites des fautes, est-ce qu'aujourd'hui vous aimez la langue, tout ça on va le voir un petit peu individuellement. On va commencer par Mehdi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la langue, le langage, et est-ce que déjà petit ça t'intéressait?
Oui, exactement, en fait je viens d'une famille où on verbalise beaucoup, on verbalisait beaucoup nos émotions, on échangeait beaucoup, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de réserve, et j'ai toujours baigné dans des environnements très prolixes.
D'accord.
Ouais,
déjà c'est... le mot prolixe il est chouette.
Exactement, ouais.
Tout le monde valide là dans l'équipe. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours aussi attaché? Est-ce que tu es plus attaché? Bah, tu es plus indépendant forcément. Puisque...
Alors, à 27 ans, ouais. Je t'avouerai que je parle beaucoup moins. Alors, je ne sais pas si c'est de la sagesse ou si c'est de la réserve, mais je suis beaucoup moins bavard qu'il y a des années.
Je trouve que la sagesse te va bien.
C'est vrai?
Effectivement, oui. Ouais.
Je suis valide aussi.
Ah ben, moi, je sais pas. Mais...
Déjà, à partir du moment où tu utilises le mot prolixe, j'estime que tu es sage. Est-ce que ça fait de moi peut-être un enfant?
Pas mal, hein. Pour manipuler les foules, le vocabulaire, tu sais ça. Ouais. Ça marche bien aussi. Politique et tout.
Les politiques,
on sait jamais. Myriam, toi, est-ce que petite tu aimais parler? Est-ce que ça parlait dans ta famille? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te touche ou pas tellement?
Alors on parle après. Moi j'ai une mère qui est d'origine hongroise.
Ouais.
Et, bon après elle a passé quand même 27 ans là-bas avant de venir. Donc.
Est-ce que
donc,
ça tu l'as ressenti déjà l'influence d'une autre nationalité de ton enfance?
Oui, c'est sûr que ça joue. C'est sûr. Et puis après papa il vient d'un milieu plutôt rural et du coup pas hyper bavard voilà de base.
D'accord.
Justement on verbalise pas tellement alors que maman beaucoup plus hein, mais voilà c'est comme il y avait l'influence du hongrois elle a un français qui est tout à fait correct mais où elle de temps en temps elle va utiliser des petites formules que nous on n'aurait pas utilisées, mais c'est du coup c'est hyper joli parce que c'est
ça
poétique.
ça enrichit le langage dans
oui c'est ça, ça enrichit le langage sorte. Exactement. Mais du coup oui moi je verbalise quand même beaucoup, mais c'est parce que aussi des influences après l'école.
D'accord.
Mais après j'ai beaucoup aimé la littérature en fait.
Ouais.
Les cours de français ça m'intéressait vraiment, surtout en première j'ai une prof formidable et du coup elle m'a vraiment permis de me plonger dedans, je lisais tous les livres qu'elle nous proposait. Et elle était passionnée et du coup elle a donné goût, ouais, c'est ça.
Ça aide. Et de ton côté, Josué, est-ce que... Bon, même question, et puis j'ajouterais que, bon, toi, maintenant, tu fais du droit, donc les mots sont particulièrement importants, même une virgule importante, un accent.
Oui, oui, tout à fait. Alors,
comment tu positionnes
Moi, je parle toujours énormément, d'ailleurs. Je parle tout le temps, mais vraiment, en permanence.
C'est vrai, on confirme.
C'est mon quotidien, l'équipe confirme, ouais. J'adore parler. C'est on va dire que c'est mon dada, quoi. Mais du
passion.
Coup, j'ai du bagou. Et on m'a toujours dit que j'avais du bagou, c'est une de... Enfin, c'est prétentieux dit comme ça, attention, hein, mais...
C'est voilà. Pas forcément prétentieux.
J'aime bien parler, comme j'aime bien parler, ben, j'aime bien que les gens... Enfin, en fait, j'aime bien parler en fonction de ce que les... Enfin, je vais pas parler pareil avec les gens que je fréquente.
Ça, c'est intéressant.
Que, par exemple, j'ai certains amis, je m'adapterai et je sais qu'ils détesteront que je parle avec un peu de vulgarité ou des choses comme ça. Et donc, je vais me retenir ou tout simplement devant des personnes importantes comme
devant
des professeurs ou devant des enfants, mais par exemple.
Ou tes parents, j'imagine.
C'est devenu un petit peu plus laxiste dans la famille en termes de vulgarité. On n'est jamais très, très vulgaire, non.
T'as pas grandi dans une famille où c'était interdit les gros mots?
Oui, complètement.
D'accord.
Complètement, mais c'est juste qu'au fur et à mesure où on grandit, comme mes parents disent, bah maintenant l'exemple est mauvais, et donc du coup on a tendance à en dire, et moi comme je dis beaucoup de gros mots hein, de temps en temps, donc voilà, arriver à sortir sur ça, mais d'autre part j'aime beaucoup la conjugaison, tiens, au taquet, une expression que j'utilise tout le temps par exemple.
D'où ça vient au taquet? Tu l'as entendu il y a quelques années, tu t'es mis à le dire, tu l'as vu sur internet,
non,
tu t'es dit ah c'est cool,
je pense que je pense que j'ai eu une année où par exemple en fait j'ai des phases où je dis un mot mais tout le temps. Il y a eu mine de rien à un moment, il y a eu au taquet, il y a eu
genre
ouais,
il y a eu un cousin, c'était vite fait,
ouais voilà exactement vite fait j'ai eu ça aussi, ouais. Ben voilà, ça c'est vraiment des petites périodes où on dit tout le temps un mot, mais mes amis me le font tout le temps remarquer, arrête de dire ça, tu le dis trois fois par phrase,
je pense que ça rejoint vraiment beaucoup de monde en fait.
Ah oui, mais vraiment
on en parle rarement, mais c'est vrai que
c'est sûr
des influences qu'on a et boum on se met à parler,
c'est un mot qu'on aime bien, on le découvre, alors on le connaissait mais on se rendait pas compte de quel point il pouvait servir, et on l'utilise tout le temps après. Bref, voilà.
Mais
donc,
toi, tu as un petit lien aussi avec l'éloquence, non, un peu
J'aime beaucoup parler bien, ouais. Et j'aime beaucoup manier les mots de sorte à faire comprendre un truc, et au final, ça veut dire autre chose. Enfin, jouer avec les mots, c'est
manipuler.
Très, très drôle. Totalement, voilà, totalement. Mentir, manipuler.
Mais tiens, tu peux faire un parti avec...
Ah mais c'est déjà prévu. Mais dis-moi, ça y est, on en a discuté.
Le parti des manipulateurs.
Non mais voilà, j'ai participé à un concours d'éloquence à ma fac. Enfin, c'était génial. Au-delà du fait que j'ai pas gagné, c'était quand même génial parce que c'était avec des amis, et ça c'est le truc le mieux possible qui puisse arriver. Donc
de toute la vie.
Voilà, de toute la vie, toute la life quoi. Et donc voilà. Non, vraiment rapport aux mots assez intéressant, mais sans plus, parce que je sais que je fais pas beaucoup de fautes d'orthographe parce que je suis en droit, mais ça c'est uniquement à cause du, enfin grâce au droit.
Et encore, il y a des gens qui arrivent en communication, comme je parle d'expérience, ou en droit, ou dans d'autres domaines, et qui font encore beaucoup de fautes et qui du coup doivent se.
Ah oui.
Se,
mais moi, je sais que je suis, enfin, je vais quand même faire certaines fautes graves, quoi. Je dirais, il y a des choses qui vont pas, quoi. Ça, et je corrige. Et ça se travaille, quoi. Ça se travaille au quotidien.
C'est marrant que tu dises faute grave parce qu'on n'a pas le temps de développer beaucoup, parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Mais dans mes recherches, et puis moi je suis assez attaché à la langue, j'ai appris que, en fait, la notion de faute, c'était pas si. C'était académique, quelque chose de défini, mais c'est pas si pertinent que ça. C'est pas tout le temps pertinent parce qu'en fait, on peut. Enfin, c'est justement le fait de faire des fautes et de proposer des expressions qui n'existent pas encore, des façons de parler, de syntaxe, etc. C'est cet apport-là à la langue qui fait évoluer la langue, tout simplement. Si on disait genre au début, genre, on nous corrigeait. Maintenant, je ne pense pas que genre, on nous corrige autant. Et c'est justement la notion de faute, on n'a pas trop le temps de s'étendre pour en dire deux mots, mais c'est plus intéressant.
C'est plus conjugaison et orthographe.
Ouais,
conjugaison, orthographe. La syntaxe, je comprends totalement qu'on puisse
même l'orthographe est discutable.
Pour moi, dire ils étaient à l'imparfait et mettre étaient, parce que pour moi c'est une faute grave. Non, je vais la faire, hein, fatigué comme ça, c'est possible que je la fasse.
Tu quittes cette émission.
Allez. et voilà, mais des fautes d'accord, des fautes simples, et des fautes qu'on apprend quand on apprend à parler français, tout simplement.
Il y a des fautes qui paraissent plus choquantes que d'autres.
Et jamais je vais aller critiquer quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est. Banalisé. Ouais. Ça s'est banalisé et c'est dommage parce que c'est vrai que parler bien français, voilà. Mais je peux pas non plus juger le fait que tout le monde n'a pas déjà les mêmes opportunités pour apprendre la langue française.
Exactement,
correctement.
Ouais. Ouais.
Et en plus de ça, tout le monde n'a pas le même rapport à la langue.
Oui.
C'est le
but
de cette émission aussi.
Après, sans juger, on peut le signaler. C'est toujours.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
C'est pour ça.
Oui,
je sais que nous en droit, ce sera pénalisé. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en licence de droit, c'est intolérable. Et pourtant, là, je suis en stage et je constate qu'il y a des avocats qui font des fautes, mais vraiment des fautes graves. Pour le coup, je dis parce que c'est des avocats, quoi. Et moi, ça me choque l'œil. Et je me dis, mais en lisant, c'est dommage parce que c'est quand même des gens qui manient la langue, littéralement. Le travail d'avocat, c'est ça. Et...
Ah bah oui, là, le mot est important, c'est sûr.
Et voilà.
On va continuer à parler un petit peu, on va reprendre le sujet un petit peu des langues étrangères avec Mehdi, parce que tu as un petit sujet que tu as préparé sur, justement, en quoi la langue étrangère, les différentes langues que maîtrise une personne peuvent influencer sa personnalité. Est-ce que c'est la personnalité qui est influencée, ou est-ce que aussi la personnalité de chacun peut permettre d'apprendre plus facilement une langue étrangère ? Comment tu tournes ce sujet-là ?
Déjà, pratiquer en fait une langue, seconde langue ou plusieurs langues, en fait, ça nous permet d'accéder à une culture. Et par ce biais, on accède aussi à différentes facettes de notre personnalité. Mais tout dépend en fait de la perception qu'on a de la langue. Mais avant toute chose, je vais vous faire revenir en fait sur ce cas. J'ai vu en fait cet article passer sur Courrier International, et c'était le témoignage en fait de Margarita, qui est russo-américaine de 19 ans, et elle disait que quand elle s'exprimait, sa langue maternelle, elle est installée aux États-Unis, sa langue maternelle, c'est le russe. Quand elle s'exprimait en russe, elle était plus réservée, elle était moins bavarde, alors que quand elle s'exprimait justement en anglais, elle avait plus confiance en elle, elle était plus libre. Elle était plus extravertie. Et c'est des chercheurs, et notamment une chercheuse, Madame Raimizaz Espaza, spécialiste de la psychologie sociale à l'université du Connecticut, qui a montré que des locuteurs pouvaient changer de personnalité ou d'aspect de leur personnalité en fonction de la langue qu'ils parlent.
Ouais.
Et ça, c'est une application qui est formidable. Et
ça, c'est fou quand même.
À mon échelle, je me suis toujours posé cette question, en fait, parce que je parle créole.
Ouais.
Je viens de Guadeloupe et ma seconde langue, en fait, c'est le créole. Et j'ai toujours su que quand je m'exprimais en créole, c'était un tout autre Mehdi, en fait, qui s'exprimait.
Et oui, ça, c'est super intéressant. Tu décris pas les mêmes réalités avec les mots de différentes langues. Tu ne la décris pas de la même façon.
Le langage, c'est une ouverture sur le monde et en fait, c'est un prisme. On peut voir la vie d'une autre façon à travers la langue que tu emploies et je trouve ça magnifique. Et en fait, selon cette chercheuse, nos croyances et notre perception d'une culture associée à une langue influencerait notre comportement lorsque nous la parlons. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je trouve que les Américains, ils sont très charismatiques, quand je vais commencer à parler anglais, eh ben, je vais me sentir charismatique, un petit peu comme Denzel Washington. Et inversement, un Américain qui va trouver la langue de Molière, notre langue magnifique, très élégante, il va se sentir très élégant quand il va parler le français. Et c'est quelque chose de très subjectif. Et je trouve ça beau parce que ça témoigne, ça dénote de quoi ? D'un esprit d'adaptabilité.
Ouais, on bilingues. En parlait, ça.
Exactement.
Ouais, c'est partout, hein.
Ou même ceux qui maîtrisent plusieurs langues, et aussi une ouverture d'esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier que la langue est vecteur de culture, et la culture, c'est...
Bah, ça passe d'abord par la langue. Fin.
Exactement. Mais c'est la perception, en fait, d'un monde sous un tout autre jour. C'est magnifique.
De l'outre-mer français, on va passer à l'Afrique, en Côte d'Ivoire.
Précisément,
ouais. C'est quoi ton expérience de langue là-bas?
Alors... Moi, j'ai été 7 mois et au début, j'ai pas compris ce qu'il me racontait alors qu'il parle français. On parle français là-bas, ça a été importé, bien sûr, avec la colonisation. Mmh. Et ensuite, ils l'ont gardé comme langue officielle. Mais la langue véhiculaire, donc c'est la langue véhiculaire, c'est celle qui va être parlée dans plusieurs pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, et qui va permettre de faire le commerce entre tous les pays.
C'est un terme spécifique à ce contexte africain, la langue véhiculaire?
Non, une langue véhiculaire. Enfin, c'est peut-être plutôt...
Est-ce qu'on peut dire que le français, en général, est une langue véhiculaire, ou c'est seulement entre les pays?
Non, là, c'est plutôt... Oui, d'accord. Non, c'est plutôt sur du commerce. Et entre... Là, en fait, c'est parce qu'il y a plus les mêmes, ethnies dans plusieurs pays, par exemple.
Mais c'est plus des dialectes,
Afrique.
J'imagine.
Parce que nous, les frontières africaines, elles sont un peu plus... arbitraire que les nôtres, quand
oui,
même.
Oui, il y a des grandes lignes droites, ça ne fait pas plaisir aux gens, ça, oui.
Voilà.
C'est sûr.
Mais bon, mis à part la...
Ça, c'est géopolitique.
Voilà. On va enlever cet aspect. Mais donc, oui, il y a ces langues véhiculaires. Et donc, en fait, en Afrique, j'ai découvert qu'il y avait quand même une créolisation de la langue. Enfin, il y a certains chercheurs qui disent ça, qu'il y a une évolution de la langue du français qui est appris encore à l'école et qui est utilisée encore telle qu'elle dans les sphères politiques. Et privilégié, mais qui a été les Ivoiriens l'ont
attrapé. On va trouver ton mot. Il y a pas de souci. Se sont accaparés.
Assimilé.
Introduit. Ils ont introduit le nom. Voilà. Alors avec leur langue, et donc il y a certains argots quelque part qui se sont développés, notamment le nouchi.
Le nouchi qu'on écoute.
Il a envahi les rues d'Abidjan. Il est dans toutes les conversations. Le nouchi, cet argot des jeunes et de la rue, est partout.
Aujourd'hui là, c'est rentré pour moi, mes brin-brin sont rentrés, il y a eu peine pour rentrer à la maison.
Stop. Alors là, il dit qu'il est content parce qu'il a bien gagné et qu'il ne rentre pas chez lui les poches vides.
Blé, 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 faux blé, blé, faux blé, blé, faux blé, blé.
Faux blé, blé, c'est-à-dire calme-toi, est un mélange de français et de baoulé, la langue d'une des principales ethnies du pays.
On dit un policier, non d'un policier, ça dit c'est un mogo, c'est un mogo.
Bon, là c'est clair, un policier devient un mogo. Des centaines de monouchis validés par la rue ont émergé depuis les années 80. Mélange de français, de langue locale, mais aussi d'anglais, comme dans le cas du verbe « enjailler » qui vient de « enjoy », s'amuser.
Au départ, on a dit que c'était une langue des marginaux, des jeunes délinquants.
Donc voilà, ça c'est l'influence de mon voyage en Côte d'Ivoire. Il y a quelques exemples d'argot et de mots vraiment baoulés, par exemple, ou d'autres langues. Mais l'autre influence, pour moi, ça a été de ralentir le débit et de prendre le temps de faire une phrase et de pouvoir chercher ses mots sans mettre plein de mots qui parasitent la phrase et qui lui enlèvent son sens. Donc ça, c'était une bonne expérience, parce qu'on avait beaucoup plus de temps pour faire nos phrases. Et les gens ne parlent pas pour rien dire. Enfin, quand on sort des mots, c'est dosé, c'est bien dit, et même parfois on fait des pauses dans sa phrase, ou alors parfois ils me répondaient pas tout de suite, ils s'en allaient et je me disais, bah, ils ont pas entendu ce que j'ai dit, ou bien comment ça va se passer, et en fait ils revenaient avec la réponse précise et pas une approximation.
Alors ça, c'est beau, et je souhaite à tous les auditeurs et auditrices d'expérimenter ça, parce qu'effectivement les langues étrangères nous apprennent beaucoup. On termine ce sujet un petit peu autour du langage avec la musique. Rapidement, mais c'est important de l'évoquer quand même.
Ouais, je l'évoque rapidement, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, du coup voilà.
Il y a pas de
soucis. La diversité du langage en musique, je trouve ça fascinant parce qu'on s'aperçoit que chaque style de musique a son langage propre. On parle souvent du rap dans ces émissions, mais le rap c'est un exemple typique, c'est-à-dire que le rap, il y a peut-être 10 types de langage dans le rap, simplement dans le rap. C'est-à-dire que on va avoir des Big Flo Oli qui parlent un petit peu plus un français vraiment correct, qui vont essayer de vraiment respecter les codes, etc., d'être un peu classique, et pourtant qui vont être tout autant intéressants.
Un français de France, pour
voilà.
On peut le dire.
Et puis à côté, on aura des rappeurs beaucoup plus qui vont être beaucoup plus poétiques, tournés vers les tournures syntaxiques, vraiment essayer de développer le sujet. Là, j'en ai pas en tête. Il y a Naman et Kassem qui sont pas beaucoup connus, mais qui sont très très forts. J'ai cité l'UJPK la semaine dernière, il est un peu comme ça aussi. Et puis après, il y a tout simplement les rappeurs qui vont utiliser leur argot, leur langage. Il y a Damso, il y a Booba et Kaaris que beaucoup connaissent. Jul utilise son... c'est quasiment une langue propre à lui-même maintenant. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Mais ça marche aussi dans d'autres musiques, dans d'autres types de musique, le R&B, la pop. Tout ça, ils ont leur style de musique. Donc je trouve ça vraiment fascinant et je tenais à l'évoquer.
Il y a de quoi découvrir, effectivement, dans le rap. Il y a beaucoup de styles différents. Il y a aussi des langues, carrément, des langues étrangères qui se mélangent. Bah, tout à l'heure, on évoquait Loud, qu'on a déjà passé dans cette émission. Loud, c'est un Québécois qui, du coup, rappe en québécois et en anglais. Donc, tout simplement, il y a différentes langues dedans et c'est magnifique. Je vous recommande d'aller découvrir plusieurs sites aussi qu'on pourra évoquer. Mais il y a le Urban Dictionary, il y a la Wikipédia, qui est l'équivalent de Wikipédia, avec des expressions de la rue, de l'argot, etc. Mais on va passer à une petite interview après une petite pause musicale. On se retrouve juste après ça.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. La parole à l'invité.
Notre invitée aujourd'hui est doctorante à l'université Sorbonne Nouvelle, Ophélie Ferreira, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Contre-soirée, aujourd'hui on parle des usages linguistiques de nos générations. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'une linguiste tout simplement et ce sur quoi tu travailles spécifiquement ?
Alors, le rôle d'une linguiste, c'est de venir décrire de manière objective les langues et d'expliquer du coup le fonctionnement d'une langue. Et moi, je travaille en particulier sur les pratiques langagières des jeunes de banlieue parisienne. Du coup, j'emploie bien le mot pratique langagière et pas celui de langue de jeunes.
C'est important.
Parce qu'en fait, on n'a pas de critères linguistiques en fait, solides qui permettent d'identifier une langue propre aux jeunes. Et puis, ça signifierait au final qu'il y a une langue propre aux jeunes, qui est différente du français, ça serait très très dérangeant.
Et alors, qu'est-ce que c'est qu'être jeune, justement ? On peut se poser la question, est-ce qu'être jeune en 2020, c'est avoir de tel âge à tel âge, ou alors c'est faire telle activité, c'est aller à l'université, aller à l'école, faire un apprentissage ? Qu'est-ce que c'est qu'être jeune ?
Bah, c'est une très bonne question. En fait, jeune, ça renvoie à une catégorie finalement très hétérogène. On pourrait se dire qu'on fixe une classe d'âge, mais ça va être encore une fois très arbitraire. Est-ce que être jeune, c'est à partir de 15 ans, puis pof, le lendemain de nos 30 ans, c'est terminé ? Bon, là, c'est un peu compliqué. On a des critères plus sociologiques. On peut se dire qu'être jeune, c'est finalement peut-être vivre encore chez ses parents, être encore en études, ne pas avoir de travail fixe. Mmh. Mais encore une fois, ces critères-là, ils sont un petit peu difficiles aujourd'hui à appliquer. On voit que les personnes font des études de plus en plus longues, enchaînent parfois les CDD. Donc, bon, c'est un peu difficile à décrire, à définir ce mot jeune. En tout cas, moi, pour mon étude, je me suis dit que voilà, je m'arrêtais de 15 ans à 30 ans. Et puis, voilà, je me suis fixé cette tranche d'âge pour aller recueillir.
Et qui étaient les jeunes, justement, que tu allais interroger, 15 ans, 30 ans c'était les jeunes de tel endroit, avec telle activité ?
Du coup, j'ai participé à une recherche où il y avait plusieurs chercheurs. Et en fait, on a fait avec notre entourage. Donc du coup, moi, j'ai plutôt interrogé des personnes qui avaient entre 20 et 30 ans, on va dire. Et on cherchait des personnes qui habitaient la banlieue parisienne. Donc bon, il n'y avait pas forcément d'activité liée, mais en général, ça pouvait être des étudiants ou de jeunes travailleurs. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'activité liée. À vrai dire, pour notre travail, on cherchait plutôt des pratiques langagières particulières.
D'accord. Alors, pour parler justement de pratiques langagières d'aujourd'hui, il paraît que certaines pratiques langagières qu'on utilise en 2020, mettons, ne sont pas spécialement nouvelles. En préparant l'interview, tu me parlais de l'absence du « que » dans certaines phrases, des mots d'aronne, meuf, du verlan, etc.
Oui, tout à fait. Donc moi, je travaille plutôt sur les structures syntaxiques du type il a cru, j'allais pleurer parce que je faisais pas tel truc. Et du coup, j'ai pu observer dans mon étude que cette absence du que, entre guillemets, n'était pas nouvelle, puisqu'en fait, on l'observe déjà en ancien et moyen français. Pareil pour d'autres mots. Par exemple, le mot meuf ne date pas de 2020. On sait très bien, on a des attestations plus anciennes. Ou même le mot kiffer, qu'on va retrouver dès le XVIIe siècle.
Le mot kiffer, justement, c'est un emprunt à l'arabe, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait. En fait, le mot « kiffer » vient du mot arabe « kiff », auquel on a ajouté ce petit bout de mot à la fin, le « er », donc un morphème, qu'on retrouve en général dans les verbes en français, les verbes du premier groupe. Et du coup, à partir de ce mot arabe et de ce petit morphème, on a pu former ce verbe « kiffer ».
Et alors, il y a des mots aussi qui sont empruntés à d'autres langues, comme l'anglais. On ne peut pas ne pas parler de l'anglais au moins rapidement. Moi, j'ai noté, par exemple, des mots comme gamer ou gameuse qui sont écrits en français, qu'on peut écrire G-A-M-E-U-R ou G-A-M-E-U-S-E. Il y a aussi le mot liker, il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur l'anglais ?
Là sur gamer, gameuse, bon en effet on a gamer ER là en anglais, mais on peut aussi l'adapter en français. Pareil, comme liker, on a ajouté un petit morphème à la fin, donc le morphème ER et EUSE pour le féminin, qu'on retrouve en français sur d'autres mots comme joueur, animateur, qui signifie simplement que une personne a une activité. Et l'intérêt avec ces emprunts à l'anglais, c'est qu'ils vont pouvoir envoyer à de nouvelles réalités. Gamer en français, il est nécessaire, il est intéressant parce que il ne renvoie pas la même réalité que joueur. Joueur, ça va désigner quelqu'un qui peut, par exemple, jouer à la guitare, jouer aux échecs, alors que gamer va renvoyer une personne qui joue plutôt aux jeux vidéo. De même pour liker. Liker, ça va plutôt être aimer, mais sur les réseaux sociaux. Ça aura une signification supplémentaire, en fait.
Alors sur les réseaux sociaux, il y a aussi le mot follower qui est assez l'anecdote est assez croustillante quand même. Je te laisse la raconter par rapport à l'Académie française et ses recommandations par rapport au mot follower.
Oui, tout à fait. Bon, follower, donc c'est les personnes qui suivent d'autres personnes, d'autres comptes sur Twitter ou Instagram par exemple. Ce mot est utilisé depuis un certain moment. Il est dans l'usage depuis un moment. Et puis l'Académie française a très récemment proposé de remplacer follower par acolyte des illustres. Bon, là c'est assez drôle. Peut-être qu'ils auraient pu choisir un mot plus simple comme abonné. Et puis ça m'étonnerait que du coup ce mot soit adopté par les locuteurs et locutrices de la langue française, hein, puisque follower est bien ancré maintenant.
Et puis le mot abonné est déjà utilisé en plus.
Oui, tout à fait, le mot abonné est déjà utilisé. Oui, oui. Et la langue française s'est fait plaisir là.
Et alors une autre pratique langagière ou syntaxique qui est utilisée, c'est le verlan. Mais encore une fois, le verlan, ça date pas d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Le verlan, ça date pas du tout d'aujourd'hui. Cette manipulation, elle est attestée depuis longtemps. Un exemple de verlan, on a meuf, par exemple.
Eh oui.
Donc, on a inversé les syllabes femme, ça donne meufa, et puis il y a une petite troncation à la fin, du coup ça donne meuf. Et là c'est aussi intéressant, on peut voir que sur la verlanisation du mot femme, on va pouvoir avoir un mot qui désigne une nouvelle réalité, une réalité différente de celle à laquelle renvoie femme. J'avais noté chez un locuteur par exemple, il dit il va pas continuer à faire des séjours, laisser sa femme partir en week-end avec des mecs et des meufs. Ouais. Et là on voit que femme, ça renvoie à une femme mariée, une personne mariée, alors que meuf, ça renvoie à une catégorie, c'est un mot plutôt général.
Donc ça dit vraiment quelque chose sur notre société. Et alors justement, avançons un petit peu, et puis j'ai envie que ça pique un petit peu. Si quelqu'un, mettons, aujourd'hui, Ophélie Ferrara, te dit que les jeunes parlent mal ou écrivent mal, qu'est-ce que tu réponds à cette personne qui a peut-être probablement 20 ou 30 ans de plus que nous, les jeunes qui avons la vingtaine, qu'est-ce que tu peux répondre à cette personne pour ne pas t'énerver et l'éduquer, justement ?
Non, les jeunes ne parlent pas mal, les jeunes savent tout à fait s'adapter, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Comme tous les locuteurs et locutrices, les jeunes s'adaptent à la personne à qui ils parlent, selon son âge, s'adaptent selon le thème de la conversation, s'adaptent selon le contexte. Donc, écrivent mal, par exemple, on pourrait se dire que les jeunes écrivent en langage SMS, mais alors, pas du tout. On peut voir que, en effet, pendant une époque, ils ont dû s'adapter. Tout le monde a dû s'adapter, hein, même les moins jeunes aujourd'hui, les personnes de 40 ans à une époque ont dû s'adapter pour les SMS parce que il y avait le prix du SMS et donc il fallait avoir le moins de caractères possible. Aujourd'hui, on voit qu'avec les claviers les SMS illimités, on n'a plus du tout cette contrainte-là et donc du coup, les jeunes savent tout à fait écrire et puis il n'y a pas du tout de raison. Et pareil, on parle souvent d'appauvrissement de la langue chez les jeunes, alors qu'au contraire, on pourrait peut-être plutôt voir un enrichissement du champ lexical avec l'emprunt d'autres langues, etc.
L'emprunt d'autres langues et puis peut-être le recours à d'autres formes d'expression. Alors on part un peu plus loin que les mots, mais les images animées, les gifs, les petites images, les petites vidéos qu'on s'envoie, les smileys aussi, on pourrait dire beaucoup de choses sur les smileys. Et je pense aux messages vocaux en particulier. J'imagine que tu penses aussi que ça enrichit la langue, les petits messages vocaux qu'on s'envoie sur les applications de messagerie instantanée.
Je sais pas si ça enrichit la langue, mais encore une fois, c'est une autre pratique. Enfin, pour le français, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir mêler à la fois l'écrit et ces petits messages vocaux. Et du coup, on va avoir une communication beaucoup plus intense. ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que non seulement les personnes s'adaptent, mais aussi il y a cette idée de distance ou de proximité dans l'interaction qui va influencer sur les façons de parler.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, la distance ou la proximité ?
Par exemple, les messages vocaux, c'est quelque chose qui est instantané, qu'on peut faire rapidement et répondre rapidement à la personne. Alors que, par exemple, si on écrit une lettre, une carte postale, eh bien là, il y aura plus de distance entre les personnes, distance physique. De même, par exemple, vous et moi, on ne se connaît pas forcément, on est dans un contexte professionnel, et donc là, ça va créer une distance, quand bien même on va avoir, par exemple, le même âge. Et donc, selon tous ces paramètres qui vont créer une distance ou une proximité, eh bien, les locuteurs vont s'adapter en parlant.
Et alors, j'ai peut-être une dernière question qui est peut-être ouverte, je ne sais pas. Est-ce que les jeunes de 2020, aujourd'hui, parlent, ont des pratiques radicalement différentes, radicalement nouvelles aujourd'hui, ou est-ce que au fond ça a été pareil à toutes les époques? Est-ce que le langage a toujours évolué de la même façon?
Oui, le langage a toujours évolué. Les jeunes ne parlent pas d'une façon radicalement différente. En fait, ils emploient des mots peut-être nouveaux, mais parce qu'en fait, ils désignent des réalités nouvelles. Quelqu'un de 70 ans ne va peut-être pas employer le mot follower, liker, parce que tout simplement, à son époque, il n'avait pas Twitter ou toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il n'est peut-être pas un grand utilisateur.
D'accord. Donc,
l'évolution de la langue, elle est toujours, c'est toujours pareil, c'est toujours la même façon. Et on le voit bien dans la manipulation des mots, on recourt toujours au même procédé. C'est juste que du coup, on s'adapte aux réalités qui nous entourent.
On s'adapte aux réalités qui nous entourent, c'est un beau mot de la fin. Donc peut-être pour terminer vraiment, est-ce que, puisque tu es là dans Contre-soirée, est-ce que tu voudrais recommander un dictionnaire en ligne, une pépite, une publication sur Internet, un compte Twitter, un podcast, peu importe, quelque chose qui a trait à la langue et que tu voudrais valoriser?
Oui, bien sûr. Le podcast de Leïla Véron avec Maria Candéa sur Binge Audio, Parler comme jamais. Qui traite vraiment de la langue, des usages, je le recommande. Et puis, pourquoi pas l'ouvrage de, encore une fois, Maria Candéa et l'Aveyron, Le français est à nous, qui est paru aux éditions La Découverte en 2019.
Des bonnes recommandations, et merci beaucoup à toi, Ophélie.
Merci beaucoup.
Et puis voilà, si vous voulez devenir acolyte de l'illustre Ophélie Ferreira, allez la suivre sur Twitter. Et moi, je vous souhaite une belle réussite. Je te souhaite une belle réussite pour tes prochaines recherches, et merci encore.
Merci beaucoup.
Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Les recommandations.
On passe à nos recommandations. On commence par Myriam, qui nous parle d'un ouvrage.
Je vous parle d'un ouvrage
que tu as apporté en studio.
Que j'ai sur moi, qui est assez marquant de la période de la guerre, de la Deuxième Guerre. Donc c'est Etty Hillesum qui écrit « Une vie bouleversée ». En gros, c'est son journal intime à un moment, en 41, elle commence un journal intime au moment où, aux Pays-Bas, ça commence à être compliqué pour les Juifs. Et donc, elle va devenir, en fait, membre d'un groupe qui permet aux Juifs de suivre lesquels vont être déportés, et donc dans un camp aux Pays-Bas encore. Et en fait, elle va vraiment choisir d'y rester alors qu'elle a la possibilité de partir. Et du coup, il y a tout ce chemin de vie intérieure qui est très profond et qui est vraiment super intéressant. Et c'est une fille vraiment du monde qui est partagée par ses émotions. C'est magnifique.
Tiraillée. Donc, une vie bouleversée de Etty Hillesum.
Hillesum, oui.
H-I-2-L-E-S-U-M. Merci pour cette recommandation. Josué, un peu de musique, de nouveautés musicales.
Ouais, je vous parle du nouvel album de Alec Benjamin que vous écoutez en fond. Donc ça, c'est vraiment... on en a déjà beaucoup parlé de cet artiste. Mais j'adore toujours. Donc nouvel album, génial. Un de mes titres préférés, c'est I'm Not a Cynic. Donc c'est celui qui passe en fond. Et voilà, donc je vous le recommande fortement. Toujours pareil, Alec Benjamin et son nouvel album.
Alec, A-L-E-C. On écoute un petit peu. Merci pour cette belle recommandation aussi. De la musique, de la lecture. On passe à Mehdi. Qu'est-ce que tu... nous recommande.
Et moi, je vous recommande, Grégoire, Missou Météo.
Non. Missou Météo.
Missou Météo de Samuel Bambi. En fait, c'est un chroniqueur dans Clic sur Canal+, l'émission de Mouloud Achour, et il présente la météo. On a souvent eu des Miss Météo, mais là, c'est Missou Météo. Et il fait des imitations hilarantes. Son humour est très jeune, très piquant, de... mais il est vraiment bon, il est hilarant. Et à titre d'exemple, il a parodié en fait l'altercation qu'il y avait eu entre Rachida Dati et Brice Hortefeux. Rachida Dati était invitée sur le plateau et allez voir ça, c'est sur YouTube et c'est vraiment de bonne qualité.
Très bien, donc Mission Météo, l'émission Clic, fin sur Clic, on retrouve ça facilement sur YouTube. Moi je vous parle d'un podcast qui s'appelle Une Lettre d'Amérique.
Hi everyone, je suis aujourd'hui dans l'état du Maine, l'état de Stephen King, l'état où Marguerite Yourcenar a passé ses dernières décennies. Le soleil est en train de se coucher ici et je vais vous parler aujourd'hui du casse-tête des fuseaux horaires en Amérique. Vraiment, c'est un casse-tête. Mais d'abord, il faut que je vous précise où je suis. Donc, dans le Maine, c'est assez simple de repérer le Maine si vous avez une carte d'Amérique. C'est la pointe nord-est, comme si les États-Unis faisaient une percée dans le Canada. D'ailleurs, quand je roule ici, je cherche toujours sur l'autoradio en FM la fréquence en français de Radio-Canada.
Donc ça, c'est Philippe Corbet, c'est le correspondant de RTL aux États-Unis, en fait, le correspondant permanent, qui nous propose un format de podcast très simple, qui dure une vingtaine de minutes, parfois jusqu'à 30 minutes, donc il y a vraiment le temps de rentrer dans les sujets. C'est un format vraiment, comme je vous dis, très simple, il a un micro, il marche, et en fait, il parle, il raconte l'Amérique d'aujourd'hui, sur le plan culturel, politique, sociétal, la culture, les médias, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment en immersion. S'il nous parle du Texas, il va être sur une route du Texas, s'il nous parle d'une émission de télé, il va être en bas dans le hall, des studios. Donc je vous recommande ce podcast qui, moi, à titre personnel, m'a fait aimer les États-Unis, alors que c'est pas à la base un pays qui m'intéresse. Donc ça s'appelle Une Lettre d'Amérique et je vous recommande, il y a un paquet d'épisodes à écouter. Allez-y, les yeux fermés littéralement, puisque c'est de l'audio. Merci pour cette belle émission sur le langage que vous pouvez podcaster partout comme les autres dizaines d'épisodes qu'on a fait depuis le début de l'année. Merci à Coraline à la réalisation, merci à Ophélie Ferreira, notre invitée du jour, merci à toute l'équipe et à la semaine prochaine, 19h, à bientôt.
Merci à toi, Grégoire.
Ciao.